C'est l'heure du LEM, l'émission quotidienne de Transistor. C'est du lundi au vendredi. Et aujourd'hui, c'est avec nos savoureuses partenaires de l'association 4 quarts qui ont plein d'idées de cadeaux gourmands pour Noël.
LEM, l'émission sur Transistor. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans l'émission, le magazine qui vous fait entendre le Finistère. Ça passe par la langue et par la bouche tout ça, quand il s'agit de goûter aussi. Donc on est tout à fait raccord avec notre association partenaire du jour qui vous propose sa propre émission Oustol, ça veut dire à table en breton. Vous pouvez entendre cette émission en français un jeudi sur deux à 13h30. Mais l'association qui explore l'alimentation dans toutes ses dimensions sociales, culturelles, gourmandes, historiques, cette association 4 quarts, elle vient aussi dans l'EM une fois par trimestre. Elle n'arrête pas, car les sujets sont infinis et toujours passionnants. Et aujourd'hui, ce sera généreux. Il n'est pas trop tard, on vous donne des idées de cadeaux à croquer ou à boire. Et si ce n'est pas pour cette année, ce sera pour Noël 2026. Avec nous, il y a Françoise Doucet, Eliane Lardier et Pascal Osier. Bonjour mesdames.
Bonjour Véronique.
Alors on va commencer par vos idées de salé, de cadeaux salés. Alors, qui commence? Qui se lance?
Alors, puisqu'il
Françoise.
En faut une, puisque c'est salé, et ben c'est du sel.
Tout simplement.
Voilà, avec des épices dedans et ou des herbes aromatiques. Si on choisit un joli petit contenant, si on ferme... Alors après, dans les proportions entre le,
oui,
sel,
c'est ça, ce que j'allais demander.
Entre le sel et les épices, ou le sel et les herbes aromatiques, c'est au petit bonheur la chance, hein, c'est
ouais.
Au pif. Hein.
C'est quel type de sel? Parce que c'est important aussi, ça. On met pas... Est-ce qu'on met du sel fin, blanc? Est-ce qu'on met du sel de Guérande? Est-ce qu'on met
Attendez, moi,
du gros sel?
Je suis née à côté de Guérande, c'est obligatoirement du sel de Guérande.
Ouais, voilà, c'est ça. Je me disais bien aussi.
En plus, dans le sel de Guérande, je dirais qu'il n'y a pas d'anti-agglomérant. Donc, c'est une raison de plus d'acheter du sel local. L'empreinte carbone est moindre, etc. Donc, c'est bien de pas d'acheter sans additifs, quand même.
Et alors, oui, on fait, à son goût. On peut faire du 100% sel, mais enfin, ça n'a pas d'intérêt. Hein,
c'est... Non, l'idée, voilà. C'est qu'il soit déjà aromatisé. J'ai fait sécher à partir de début août, je ne sais plus trop, du romarin.
Du jardin.
Du jardin, en très grosse quantité, parce que c'était limite un arbre. j'ai fait sécher, après j'ai broyé. Ça a été une
ouais,
deuxième...
Oui, c'est ça, il ne faut pas laisser entier le romarin, sinon c'est un peu désagréable.
Oui. Donc j'ai tout broyé.
Avant de le mettre dans le sel.
Avant de le mettre
ouais.
dans le sel.
Ok.
Ouais. Et après j'ai pris du gros sel. Mais... je dirais, on prendrait de la fleur de sel, ça marcherait.
Oui. Oui, il faut mieux que ça soit quand même un sel épais, plutôt qu'un sel fin.
Oui.
Et est-ce qu'il y a des recettes, enfin des associations qui valent le coup particulièrement? Si Sophie était là, peut-être qu'elle nous donnerait ses trucs.
Sophie, c'est vraiment la reine sur le sujet. Moi, j'avoue que je fais avec ce que j'ai. Comme j'ai beaucoup de romarin, là cette année, ça a été sel avec du romarin dedans.
Mm.
Après toutes les herbes séchées ça fonctionne, et avec les épices ça fonctionne bien aussi,
et un peu d'ail même aussi hein.
De l'ail, du coup vous mettez de l'ail séché?
Oui je pense, c'est pas moi qui le fais hein, j'avoue, c'est Sophie, elle propose un sel où il y a de l'ail dedans,
ça
pense
doit être juste
séché.
Exceptionnel. Après si elle le met pas séché, le sel va pomper l'eau de l'ail. Ou l'eau et c'est pas mieux parce que ça va rendre votre sel beaucoup plus humide voire mouillé.
Ouais, oui.
Et
faut se méfier de ça.
Là je viens de faire un saumon Gravelax et donc je l'ai oublié et donc j'ai eu un morceau de saumon hyper dur et tout le sel était rempli de saumure et d'eau, par osmose il faut vraiment quand on mélange avec du sel faire attention à ce que tous les ingrédients soient bien secs avant.
Et les épices, sinon on peut mettre des épices, voire des fruits secs pour faire du salé sucré apparemment.
Ah, ça c'est chouette ça. Qui met des fruits secs dans son...
Je ne sais pas, c'est Sophie, je pense, en fait.
Ah, mais c'est une excellente...
Bon, après, les fruits secs, ça peut aussi être des noix de cajou. Voilà, c'est ça, quand on dit fruits secs, c'est un peu vaste. Mais, et c'est vrai que ces mélanges, c'est intéressant, ben voilà, pour une soupe, pour... Enfin, c'est... bon, on ne les utilise pas tous les jours, quoi. Hein.
Et après, c'est la question du dosage. Donc, il faut bien qu'on ait à l'esprit, est-ce que j'ai mis 20%, est-ce que j'ai mis 80% d'épices? Parce que du coup, la quantité de sel qu'on met après, en tout fait, dans une soupe, dans un plat, etc., bah, il ne faut pas avoir la main trop lourde non plus.
Il faut tester.
Faut tester.
Mmh. Donc ça, ce sel aromatisé, on va dire, bon, on n'est pas obligé de le faire beaucoup à l'avance, enfin, à part le séchage des herbes.
Ouais, le séchage, c'est dur à dire, des herbes, ça prend bien 2 mois. Hein, oui. Faut faire attention. L'intérêt du sel, c'est la conservation.
C'est
on n'a aucun problème microbio. On ouvre notre cadeau de Noël 2025 en 2027. Ça fonctionne toujours.
Oui. Donc voilà, donc ça c'est les sels aromatisés. Il y a, alors on peut offrir, on reste sur le salé, hein, on peut offrir bah, les herbes aromatiques toutes seules, enfin si on en a suffisamment dans son jardin. Alors c'est généralement pour manger, mais ça peut être de la lavande, Pascal.
Hein? Absolument.
Là, c'est pas pour manger.
Enfin, non, la lavande que l'on collecte le moment venu et que l'on offre dans des petits sacs qu'on peut tisser soi-même. Voilà.
En tissu, bien sûr.
De différentes couleurs.
Et ça sert à quoi, la lavande, dans les sacs en tissu?
Ben, c'est pour préserver, d'abord pour la bonne odeur dans les armoires, et puis c'est anti...
Anti-mythe,
c'est ça.
Bon, on peut même faire des tisanes à la lavande, quand même, si on aime après, hein, ceci dit.
On peut tout faire.
Ouais. Oui, c'est comestible, mais enfin, moi, c'est vrai que...
C'est vrai qu'en petit sachet dans les armoires, et puis c'est bien, utile et agréable, quoi.
Après, il y a quand même des plantes aromatiques qui se prêtent plus ou moins au séchage. Enfin, je trouve qu'il y en a beaucoup qui perdent leur goût. Enfin, je sais pas, le basilic, je trouve que c'est pas très intéressant de le faire sécher.
Est-ce que la coriandre vietnamienne se sèche facilement?
Ben, comme nous, on en a toute l'année dans le jardin en fraîche, on la sèche. On n'a pas tenté de la sécher, en fait. Mais c'est vrai qu'il faudrait qu'on essaye. Bah, ça marche bien avec l'origan, ça c'est sûr. Le thym.
C'est vrai, le persil, quand on le sèche, je trouve que pareil, il n'y a pas de goût, il n'y a pas d'odeur.
Oui, c'est vrai, souvent il perd. Il faut mieux le congeler d'ailleurs. Oui, mais enfin, voilà. Bon, là pour l'offrir, c'est beaucoup plus difficile du congeler.
Voilà.
Donc il y a quand même des herbes aromatiques sèches qui sont à privilégier si on veut faire des cadeaux. Je rappelle que cette émission est consacrée aux cadeaux. Alors, les cadeaux qu'on mange, bien sûr. Alors, on peut aussi, si on a suffisamment d'ail dans son jardin et si on a réussi à bien l'enlever correctement, on peut faire sa tresse d'ail.
Ah oui, hein? Ou d'oignons, là, c'est ce que j'ai fait. Ça fonctionne bien, c'est beau. Puis on choisit les plus beaux oignons. Et après, avec toutes les idées que l'on évoque au cours de cette émission, on peut récupérer un cajou. Ou un panier en osier et on fait un panier garni.
Oui, on parlera des contenants à la fin de l'émission parce que c'est important évidemment quand on offre du manger fait soi-même, bon autant offrir les contenants aussi jolis, n'est-ce pas? Les contenants cadeaux. Alors quand on fait si on veut faire des olives en saumure, c'est une idée, comment est-ce qu'on fait
C'est ce que j'ai fait pour Noël, seulement on pourra pas les manger à Noël. Puisque
ce sera pour Noël prochain, Noël 2026.
Oui, voilà. C'est ça. Parce qu'on récolte les olives mi-octobre. Enfin, après, ça dépend de l'année.
Donc, il faut les cueillir mûres, enfin très mûres, c'est ça?
Alors non, début de maturité. Parce que justement, plus on avance en maturité et plus je l'ai fait avec... J'ai fait le test, hein, c'est pour ça que j'ai pris des olives en début de maturité et des olives en fin de maturité. Et sur les olives en fin de maturité, j'ai eu quelques moisissures dans mon pot. Donc, je déconseille.
Donc, olives vertes
Des olives vertes, mais souples, pas trop dures quand même. Début de maturité qui commence à changer de couleur. C'est important.
Elles ont poussé dans le Finistère, ces olives?
Elles ont poussé en Loire-Atlantique.
Wow, presque, on y est presque. Oh là là, c'est terrible.
Ouais, j'en ai fait une vingtaine de pots, j'étais contente.
Et alors, comment on fait?
La première chose, vraiment, sinon on loupe tout. Pendant une dizaine, alors j'ai pas compté au jour près, une dizaine, une douzaine, une quinzaine de jours, je désamérise les olives.
Comment fait-on ?
C'est hyper simple. Tous les jours, je les change d'eau.
Je il faut bouillir ou juste
non, non,
tremper?
Non, non, tremper dans l'eau froide.
Ah oui, donc mais... c'est consommateur d'eau quand même.
Ouais.
Oui, est-ce qu'on peut utiliser l'eau pour arroser son
oui,
jardin,
oui, bien
si on n'a pas besoin.
Mais elle est pleine de sel, l'eau.
Non, là, c'est les olives avant qu'elles aient été salées.
Voilà. À ce moment-là, elles sont, c'est juste de la désamérisation.
Ah oui, pour l'amertume.
Ouais.
Oui.
Et j'attire vos... Enfin, du coup, quand on fait, mais on le verra en sucré, de la clémentine confite...
Exactement,
on
c'est
fait
ce que j'allais dire.
Exactement pareil.
Pour tous les agrumes, d'ailleurs.
Et pour tous les agrumes. Oui. Mais pour l'olive, c'est vraiment frappant. Voilà. Donc
20 fois... bains différents.
Non. J'ai fait 20 pots, mais j'ai dû faire une dizaine de jours.
Donc, 10 bains différents. Pendant 10 jours.
Okay. Et quand
combien de litres?
Bah, faut juste les recouvrir, quoi, en fait.
Ça dépend de l'olive. Bah oui, c'est ça. Ah, ouais.
Oui, c'est ça, faut qu'elles soient recouvertes.
Et oui, d'accord. Donc, une fois qu'on les a désamérisées en les rinçant tous les jours, on va dire.
C'est ça.
Ouais, qu'est-ce qu'on fait alors?
Bah, après, moi, je prends des pots le parfait, avec donc un joint orange. Et je mets les olives et ensuite, je mets des herbes aromatiques. Donc, en séché, du thym, du laurier, des baies roses et du citron. Une rondelle de citron. Et ensuite, je prépare une saumure à base de 3% de sel. Donc, ça me fait 30 grammes de sel par litre.
Donc, une saumure, c'est de l'eau et du sel, hein, c'est ça?
C'est ça.
Et l'eau, il faut qu'elle ait...
Qu'elle ait bouilli.
Ah oui.
Et refroidie de façon à évaporer le chlore.
D'accord.
De façon à ce que derrière la fermentation lactique puisse se faire.
Oui, parce que ça va être une fermentation
et c'est assez rigolo parce qu'on ferme, on n'ouvre plus et après à température ambiante, on n'ouvre plus.
C'est que 3% de sel dans l'eau.
Oui.
Ah oui,
oui,
d'accord.
Oui, oui. Attendez, j'ai dit une bêtise.
C'est 6%. C'est, pour 6... c'est plus que la...
En fait, j'ai confondu avec le légume lactofermenté.
Oui, on en parlera après.
Oui, j'ai confondu. Là, mes tests sont à 6%.
D'accord.
Mais dans le commerce, c'est 10%.
Bon, alors 6 grammes de sel dans un litre d'eau, c'est ça, la proportion.
60 grammes.
Ah non, 60 grammes.
60
ah oui,
bah grammes.
Oui, évidemment.
Ouais.
D'accord.
Voilà. Okay. Et ensuite... la lactofermentation va débuter, donc dans un endroit pas au froid, parce que sinon elle ne va pas se faire, au fond d'un placard. Et puis de temps en temps, j'entends... Donc,
c'est pas trop remplir, c'est beaucoup.
Oui, voilà. Il faut laisser un centimètre et demi.
Mais on ne les ouvre pas pour autant.
Et par contre, les ouvrez pas. Parce qu'à partir du moment où vous allez ouvrir 3 à 6 mois après, c'est pour ça que pour offrir là, le mois suivant...
Pour Noël de l'année prochaine.
On peut offrir, mais en disant à déguster dans 6 mois.
Eh ben oui, aussi, ouais.
On peut offrir.
Et à ne pas ouvrir avant...
C'est ça. Voilà. Et c'est inratable. Alors, il y a un petit truc aussi. Je me suis acheté des petites bandettes. Alors après, ce n'est pas obligatoire. Mais pour être sûr, comme je teste mes pourcentages de sel et que je suis en proportion basse à 6%, il faut que ça descende à un pH 4,5. Donc j'ai acheté des petites languettes pour voir si ma lactofermentation va bien se faire.
Et alors les légumes, justement, autres que les olives, on peut aussi offrir ça. Hein.
Oui,
c'est le même procédé. Lactofermenté, voilà, on en a déjà parlé, mais on peut rappeler.
Voilà, hein, c'est le même procédé, mais avec moins de sel.
Voilà, 30 grammes de sucre, de sel. Dans un litre d'eau. Ça se prête bien, alors les cornichons si on en a, mais bon, là c'est peut-être un peu plus la saison. Là. Qu'est-ce qu'on peut lactofermenter
J'ai lactofermenté du gingembre, j'aime bien.
Ah ouais, c'est bon.
Et j'ai les carottes, j'aime bien aussi.
Ouais, d'accord.
L'ail aussi.
Ah ben voilà, justement. Il n'y a que la pomme de terre qu'on ne peut pas mettre en lactofermentation en fait.
La pomme de terre et le potiron.
Ah
et
oui,
le potimarron, ça marche pas bien. Les courges.
Ouais, les courges, ça dépend parce que les cornichons, ça fonctionne plutôt bien. Or, ce sont des cucurbitacées.
C'est vrai. Mais avec le potiron, dans toutes les littératures, on dit le potiron et le potimarron, ça marche pas bien.
D'accord. Bon, alors il nous reste un tout petit peu de temps sur le salé pour parler des. Ah bah les citrons. On parlait des citrons. Alors les citrons confits, hein? Alors, c'est
oui.
Moi qui raconte.
Alors,
ou c'est...
Ah, ah oui, voilà. Là, c'est toi, parce que là, c'est toi l'expert.
Voilà, ce sont des citrons donc bio, évidemment, qu'on nettoie bien hein, quand même. On les coupe en quartiers et on les laisse dégorger dans du gros sel pendant 48 heures. Donc, pas mal de gros sel. On va enlever le sel quand les 48 heures sont écoulées, mais sans plus. Hein, c'est pas la peine de les rincer à l'eau. Et on va les mettre dans de l'huile d'olive, les citrons. et avec, on peut mettre quelques baies rouges, enfin ce qu'on veut, hein, pour aromatiser. Et là, c'est pareil, c'est un peu tard pour Noël de cette année, parce qu'il faut bien laisser un bon mois, voire un mois et demi, le temps que le citron puisse confire, justement, et être servi dans des tagines, des plats comme ça. Voilà.
Ça doit c'est juste être délicieux. Divin.
Ouais.
Mais finalement, à nous écouter, je me dis, ben, on peut offrir en mettant à consommer dans 3 mois.
Oui, voilà. Ça, pour les citrons, c'est vraiment simple. Il n'y a pas de... Enfin, ça fonctionne bien. Le citron, c'est suffisamment acide pour se préserver tout seul. Et enfin, nous, on n'a jamais eu de problème avec ces citrons confits. Après, il y en a qui sont malheureusement qui sont trop durs, qui vont rester durs, qui vont avoir du mal à confire. C'est le seul problème qu'on peut avoir. Et c'est vrai que c'est bien aussi à couper en petits morceaux dans les salades nordiques, style salade hareng pomme de terre.
Ça peut être divin.
Oui.
Alors, il faut plutôt choisir les citrons un peu fermes ou un peu mous ?
Non, justement, plutôt mous, moi, je
plutôt
dirais.
Enfin,
oui, mais pas trop, quand même. Hein. Enfin, il faut qu'il soit mieux. Il ne faut pas qu'il soit trop vert. Quoi. Et oui, c'est vrai que si la peau est vraiment très épaisse, bon...
Et ce qui se passe, c'est que quand on les met 48 heures dans le sel, du coup, comme on est en déshydratation, ça durcit obligatoirement un peu la peau.
C'est vrai.
C'est comme avec l'histoire de mon saumon tout à l'heure. Ce que je... enfin, c'est net. Après, sur du... moi, je vais m'y mettre au saumon...
Au citron confit.
Je vais m'y mettre parce que d'un, c'est délicieux, mais c'est inratable d'un point de vue microbio. Un, le citron... est acide, donc ça conserve, il n'y a pas de risque bactériaux. Deux, je mets du sel, donc j'enlève l'eau du citron, donc il y a encore moins de risques bactériaux. Et troisièmement, après, je le mets dans l'huile pour conserver.
Voilà.
Donc on est vraiment.
Qui conserve bien.
Tout n'est pas bien conservé dans l'huile si ce n'est pas déshydraté.
Oui, c'est ça, oui.
Mais là, la déshydratation plus le salage plus l'huile, là, c'est béton.
Et l'huile, attention, quand on a fini ses citrons, on garde son huile, bien sûr, justement, pour tout ce qui est vinaigrette, des salades de poisson, des choses comme ça.
C'est l'huile d'olive ?
Oui, c'est l'huile d'olive, oui. Enfin, ça pourrait sans doute être autre chose, mais c'est mieux quand c'est l'huile d'olive, je trouve. Voilà. Alors,
mais toutes les huiles, finalement,
les huiles parfumées, voilà, on pouvait en dire un tout petit mot.
Les huiles parfumées.
Avant de passer au sucré.
Oui. Mais qu'est-ce que vous faites en huile parfumée ?
Mais moi, je connais. Enfin, l'huile, c'est pas parfumé, mais c'est colorant. Aux Antilles, on prend le roucou.
Qu'est-ce que c'est le roucou ?
Ce sont des baies, je ne sais pas trop comment expliquer, qui sont rouges. Hein.
Oui.
Ils utilisent beaucoup en cuisine, en pâtisserie, comme colorant.
Parce qu'elles n'ont pas vraiment de goût en soi.
Il n'y a pas de goût, par contre, c'est un colorant. Et on met ça dans l'huile. Et comme ça qu'on fait des sauces, on utilise cette huile colorant pour donner de la couleur à la sauce.
Plutôt huile d'olive ou...
L'huile qu'on veut,
d'accord.
Exactement.
Oui, voilà. Oui.
Après, la matière grasse capte les saveurs, hein, et donc qu'on mette, on pourrait mettre, par exemple, des champignons, des shiitakes, déshydratés.
Ah oui, ça on l'a déjà fait, ça, oui.
Ça pourrait être excellent, là, je suis en train d'imaginer. L'ail, bien évidemment.
L'oignon,
mais
on le fait avec les tomates séchées, par exemple, on les remet dans l'huile, ça donne.
Oui. C'est bien ça, les tomates sont séchées avant d'être mises dans l'huile.
C'est ça.
Il faut juste sécher avant, parce qu'on a beau dire, sinon on peut avoir des développements quand même de microbes.
Ouais, de moisissures. Ouais. Et les vinaigres parfumés, c'est parfumé à quoi ? Là, pour le coup, c'est plus simple, le vinaigre, c'est pareil, ça risque pas trop de moisir.
Bah, j'en fais pas trop, moi, de vinaigre parfumé.
Bon, ça a été cité, c'est une idée, mais c'est vrai qu'on n'a pas plus de... Sophie n'étant pas là, on n'a pas d'exemple. On va passer au sucré, parce que là, il est déjà midi 18. alors, qu'est-ce qu'on peut offrir en sucré ? Eliane ?
Pour le sucré, mais je voulais parler aussi des petits pâtés.
Ah, d'accord.
Salés qu'on fait, c'est une spécialité des Antilles, je me rappelle de mon enfance. Parce qu'aux Antilles, Noël, c'est le cochon.
Ah bon, d'accord.
Voilà.
Parce que c'était rare.
C'est tout sur le cochon.
Ok.
Voilà,
bon,
déjà, c'est le jambon, on dit le jambon de Noël. Mais après, il y a le boudin, donc on faisait. Maintenant, les gens font maintenant toute l'année. Et ce qui se passe aussi, donc, avec le cochon, on faisait un ragoût de porc, bien épicé, bien sûr, avec toutes les épices. Et après, donc, ce ragoût de porc haché, on trouvait une pâte brisée, mais pas faite avec du beurre, parce que dans le temps, les charcutiers, je pense, utilisaient du saindoux. pour pouvoir faire la pâte.
Mais oui.
Mais déjà, dans le pâté en croûte, c'est pas du beurre, c'est fait avec du sein de
veau.
La pâte brisée. Et on faisait ces petits pâtés qu'on appelle, mais pâtés, quand on dit pâté, ce sont des petits chaussons.
Oui, c'est ça.
Friands. Mmh. Donc, comme en Espagne, ça se fait aussi.
Ou des empanadas.
Ah, voilà. Ouais. Et aux Antilles, on appelle ça des petits pâtés.
Et c'est ça qu'on amène au repas de Noël.
On faisait ça sur la table, un grand plat, et tout le monde se servait. Et on offrait ça à nos voisins, les connaissances, pour les fêtes de Noël.
D'accord. Mais justement, ça me fait penser à quelque chose qui est sucré pour le coup, qui nous permet une transition, c'est les brédélés. Voilà. Alors qu'ils ne sont pas très bretons, mais finalement, on s'est mis à en faire.
Moi, j'ai appris avec ma fille qui vit en Allemagne.
Alors qu'est-ce que c'est ?
Pareil, ce sont des petits sablés. Voilà, différentes formes avec une porte-pièce qu'on fait différente. Et après, on offre ça aussi à ses voisins.
Et ce n'est pas que de la pâte sablée, d'ailleurs. Il y a des pâtes qui sont faites, par exemple, il y en a, ils sont faites plutôt avec de la poudre d'amande. Enfin, les recettes de base ne sont pas seulement du sablé. Ouais.
Non, mais dans pas mal de pâtes sablées, on rajoute la pâte d'amande.
Oui, c'est ça. Mais il y en a
tout dépend de chaque... on fait aussi des petits gâteaux en forme de lune ou d'étoile à base d'amandes ou de noisettes ou de noix.
Et Françoise, les mantecaos, tiens, c'est très simple. Voilà. Là, les biscuits espagnols qui sont un peu ont la même idée.
Ah
c'est...
oui.
Comment est-ce qu'on fait ça? C'est très simple,
ouais,
ça.
Bah c'est un mélange de farine, de sucre.
C'est tout.
Et d'huile.
Et d'huile.
Ah oui.
Et d'huile.
Une huile neutre, je suppose.
On peut éventuellement... Oui, mais enfin...
On pourrait mettre à l'huile d'olive. Ça donnerait un petit goût.
Alors non, ça va donner un goût acre à la cuisson derrière.
Ouais.
Alors par contre...
C'est un tiers, les proportions?
J'essaierai de retrouver les proportions, si vous voulez. C'est à peu près ça.
Oui. Et donc on fasse seules les petites boules, parce que c'est vraiment en forme de boule assez épaisse quand même. Hein.
C'est comme une petite clémentine.
Oui, c'est ça.
On les surplaque, on fait cuire. Alors il faut, à la première craquelure, on les sort du four, sinon c'est trop dur.
Ah bah oui. Il faut que ça reste moelleux.
Donc après, c'est comme du sable en bouche.
Ça fait sablé.
Oui, mais c'est assez agréable en fait, c'est vrai. Hein. Alors bien sûr, on peut... Oui. Eliane,
oui. Oui, on a aussi, chez nous, on préparait aussi à l'avance, dès le mois d'octobre, on mettait à sécher des écorces d'orange.
Ah oui, à sécher.
À sécher, donc on faisait ça septembre-octobre, parce que, je vais dire, les Antilles, les saisons, ça fait un peu comme ici, maintenant, c'est les fruits, c'est la saison des agrumes.
Ah oui, Noël, c'est la saison des agrumes, c'est clair.
Donc, ils mettent ça à macérer dans le rhum.
Donc, ils font sécher.
Et voilà. Après, ils mettent dans le rhum. Et il faut que ça, jusqu'à fin novembre, début décembre. Et début décembre, ils vont préparer un sirop de sucre qu'ils vont rajouter dans ce rhum. Et ça faisait maintenant, on dit rhum arrangé.
Oui, c'est ça.
Voilà. Mais on faisait ça avec de la noix de coco. Et avec uniquement de l'orange pour que ça rappelle vraiment Noël. Maintenant, les gens, ils font un petit peu à tout.
Ah oui, le rhum arrangé, on peut faire à tout, apparemment.
On fait à tout maintenant. Ouais. C'est comme je viens de parler, des petits pâtés salés. Maintenant, les gens, ils font avec des crevettes, du poulet. Ils font aussi à tout. Et qu'à l'époque, c'était uniquement avec du cochon.
Mais dans le rhum, on met plutôt des choses sucrées quand même. On ne va pas mettre des crevettes.
On ne met pas de cochon surtout.
Non, plus. Non, mais je veux dire, c'est l'ensemble.
Oui, bien sûr. D'ailleurs, puisqu'on est dans les alcools à consommer avec modération, on peut aussi offrir des liqueurs de fruits. Enfin, on achète de l'alcool de fruits et puis on fait macérer dedans. Ça peut être. Moi, je l'ai fait ça avec de l'amande pour faire mon propre. Avec de la poudre d'amande pour faire mon propre amaretto, parce que j'en trouvais plus, l'amaretto. Ouais, mais on peut faire macérer des fruits de son jardin. Enfin, c'est pareil, il faut s'y prendre à l'avance.
Pour ce Noël, on a aussi le sirop spécial Noël aussi, le sirop d'hibiscus.
Ah oui, il faut en avoir.
Donc l'hibiscus, on le trouve aussi, donc, la récolte est faite aussi qu'à Noël.
Ah oui, d'accord.
Donc on prenait ces pétales de fruits rouges qu'on mettait dans de l'eau et après on faisait un sirop donc, qui était arrangé avec soit du rhum, soit pour mettre dans les gâteaux. C'était Noël.
Il y a des hibiscus en Bretagne.
Ah oui, il y en a.
Oui, moi j'en ai trois dans mon jardin.
Parfait, on va pouvoir offrir ça aussi.
Hibiscus comestible.
Ah oui, parce qu'il y en a qui se... Ah oui, d'accord, il faut faire attention quand même.
Il y a des hibiscus qui ne sont pas comestibles.
Ah oui,
comment savoir
Azut.
Comment savoir lequel est comestible? Tu vas venir à la maison, je te montrerai.
Bon, alors il nous reste juste 2 minutes pour parler des contenants. Alors, on en a parlé un petit peu, mais Françoise, une petite collecte d'abord, en amont, pareil.
Une collecte s'impose tout au long de l'année.
Et oui, donc qu'est-ce qu'on collecte ?
Bah, des petites cagettes, là, des toutes petites cagettes comme ça en bois. Après, on met de...
Pour faire les paniers gourmands,
pour
justement
pour faire les paniers gourmands. Mmh. Après, ce que j'ai le plus de mal à trouver, je récupère au fur et à mesure quand même, mais c'est tout le papier transparent, parce qu'il en faut beaucoup de papier transparent si on veut entourer.
Mais ouais, on n'est pas obligé d'entourer non
après,
plus.
Hein. On n'est pas obligé d'entourer.
Ou alors, non. On fait comme fait Pascal, elle fait son papier cadeau.
Voilà, on achète du papier craft, et puis on fait avec des pochoirs de différentes formes, des feuilles d'automne, des petits lutins, enfin pour Noël, toutes sortes de comment dirais-je, d'objets inanimés. De dessins inanimés.
En peinture, alors ?
En peinture, avec de l'acrylique.
Ah ouais,
et avec un petit rouleau, on passe ça dans un récipient. Et avec on pose le pochoir et puis on passe dessus.
Et comme ça, en plus, ça fait un papier gourmand surprise.
Voilà. Voilà. Et puis, on peut le réutiliser. Et puis, c'est du papier craft. Enfin, ouais, c'est assez écologique.
Ouais. Et puis, comme ça, on ne peut pas savoir à l'avance ce qu'il y a dans le panier
gourmand.
C'est
ça, ça fait la surprise. Voilà.
Et puis, sinon, voilà. les boîtes en fer, on est d'accord pour les bredelés, hein,
voilà,
Eliane ?
Voilà, les boîtes en fer.
Et pourquoi c'est important, les boîtes en fer ?
Parce que
pour les biscuits ?
Comment ça conserve le gâteau sec, ça ne prend pas l'humidité.
D'accord.
À l'intérieur. Et pour Noël aussi, donc, moi, je faisais aussi des sacs pour mettre le pain.
Ah oui. Et il faut savoir coudre, là.
Bah oui, bien et sûr. Ouais, on peut faire aussi des sacs pour le linge, pour ces petites lingeries qu'on voyage beaucoup.
Des sacs à vrac, maintenant, voilà. Puisqu'on est dans l'alimentation.
On a besoin de sacs pour transporter le linge sale. Donc, on fait des sacs. Ah
ouais, mais là, c'est plus de l'alimentation.
C'est,
là,
c'est pas de la gastronomie.
Ouais,
là.
Non, c'est pas de la gastronomie. Non, nous, on va recommander les sacs à vrac.
Des sacs.
Oui, alors, on va se dire au revoir parce que l'émission est déjà terminée. Donc, on va vous remercier. Puis, on mettra d'autres idées sur le site internet de Transistor.
Merci pour ce moment délicieux.
Merci beaucoup. Au revoir.
Merci Véro.
Au revoir et joyeux Noël.
Joyeux Noël.